On va cette semaine passer un peu moins de 60 minutes avec David et Sébastien. Les technos, c'est donc votre rendez-vous avec une certaine actualité technologique sous le regard de nos deux chroniqueurs. Que voici, que voilà. Dans notre abécédaire cette semaine, il est question de la lettre N, par exemple, comme Netflix, et d'un nouveau plan tarifaire, de la lettre T, comme télévision, que l'on pourrait peut-être regarder au volant d'une voiture autonome, ou comme toujours la lettre T, comme Twitter, que Elon Musk a toujours en ligne de mire. Ça devient un véritable feuilleton. Il sera également question, dans quelques minutes, du syndrome d'enfermement, d'où il semble possible de pouvoir communiquer. On comprendra comment cela est possible. Bienvenue et d'avance, merci de vous abonner au Techno. Merci également pour vos commentaires et les partages de nos contenus dans vos réseaux. Bonjour messieurs, comment allez-vous ?
Hello !
Salut !
À roule ! Bonjour la Belgique.
Très bien.
bonjour la Belgique. Bonjour.
Bon,
oui, parce que oui. Parce que David normalement est en Thaïlande et là il est en Belgique. Ça arrive pas souvent.
On voit bien la différence dans le fond.
Oui, on voit. C'est mieux rangé.
Non, il y a de la lumière. Il fait un enregistrement avec de la lumière du jour.
Oui, presque, quasiment. Et puis, il n'y a pas les ventilateurs, il n'y a pas tout le bruit qui va autour. il ne transpire pas non plus sous la chaleur. Quoique, il y a quelques instants, David nous disait qu'il faisait un petit peu chaud en Belgique. Les gars viennent de Bangkok et ils se plaignent de la température.
J'ai ouvert la fenêtre quand même.
Je pense qu'il a chopé un petit rhume belge. Voilà. Vous allez bien, manifestement, vous êtes en forme. Donc, on va pouvoir tout de suite attaquer notre abécédaire. Avant toute chose, on va remercier ceux qui nous laissent des commentaires de temps à autre. Ceux qui nous laissent également des étoiles sur certaines plateformes de podcast ou des pouces par exemple sur YouTube, puisque vous pouvez également nous voir sur notre chaîne YouTube. Tout ça, vous le retrouverez regroupé sur notre site lestechno.be. On commence donc avec la lettre C comme contact, avec un sujet qui passionne Sébastien et qui, je pense, passionne aussi David. En tout cas, moi, je me mets dans le lot également. Il s'agit de ce fameux syndrome d'enfermement dont on parle de temps à autre. On va réexpliquer de quoi il s'agit, Sébastien, et d'un homme qui a réussi, bien qu'étant dans ce syndrome d'enfermement, a réussi à communiquer. Là aussi, on va tout expliquer. Je te laisse la parole, Sébastien.
Ouais, effectivement, c'est le genre d'article qui passe en général assez peu en mainstream et que je trouve vraiment hyper passionnant. Ouais. Voilà, c'est les avancées, les progrès qui sont vraiment importants pour l'être humain. Et alors, c'est quoi le progrès? C'est un homme allemand qui effectivement était atteint d'une maladie dégénérative musculaire, hein, donc au fur et à mesure du temps la plupart des muscles ont commencé à cesser de fonctionner ou ils pouvaient plus les contrôler, donc c'est quand même définitif, donc tu vois ton corps s'éteindre tout doucement et tu sais qu'à un moment tu sauras plus respirer, tu sauras plus parler. Donc c'était le cas, ça a commencé il y a quelques années, en mars 2019, donc voyant que ça commence un petit peu à devenir compliqué, il a demandé à une université allemande, parce qu'il savait qu'il y avait des recherches, de dire « Ok les gars, branchez-moi un truc au niveau du cerveau, donc des petites électrodes, pour essayer de me permettre de communiquer encore à partir du moment où malheureusement je ne saurais plus communiquer. » Et donc effectivement c'est l'université de Tübingen, il y a deux gars qui ont dit « Ouais, ok, c'est bon, on prend le défi et on va essayer de lui apprendre. » Parce que le problème c'est de lui apprendre à utiliser ce device pendant qu'il est encore conscient. Pas malheureusement quand il est déjà, quand tu ne sais déjà plus communiquer avec lui. Donc ça, pour le moment, c'est effectivement une limitation de ce système. Et donc ils lui ont implanté, ils lui ont appris à se servir de système pour pouvoir, c'est un simple écran avec les lettres et lettre par lettre avec son cerveau avec un peu d'entraînement, il arrivait à choisir ses lettres sur un tableau. Qui n'existe pas, hein. Donc c'est un tableau que lui a pu voir pendant un certain temps, et effectivement, disons, si quand je fais ça, j'appuie sur le H, sur le O, sur le etc., etc., Et donc maintenant, il arrive à l'utiliser. Malheureusement, maintenant, il est complètement paralysé. Il est sous assistance respiratoire. Donc, malheureusement, c'est pas top pour lui. Il peut rester encore un certain temps comme ça. Mais c'est impossible pour lui de communiquer avec l'extérieur en disant « J'ai soif, j'ai faim. Ou ce que tu m'as donné, c'est dégueulasse, j'aime pas le poulet. » Parce qu'il continue à ressentir des trucs. Il est vivant. Donc oui. C'est une des pires. Enfin, c'est humainement, c'est quelque chose qui est vraiment horrible à vivre. Et ici, il peut communiquer en disant effectivement j'ai soif. Ça fait partie de ses premières communications en disant j'ai soif, la soupe est dégueu, je voudrais un peu de truc avec du curry et machin. Donc effectivement, il donnait des infos sur ses soins. Et puis, ce qui est un petit peu plus émouvant, c'est que il a pu avoir des discussions avec son gamin parce que il a un gamin. Hein, ces gens ont des familles. Oui. Et donc, il y a une vidéo que vous pouvez aller voir sur le site, si vous avez le cœur bien accroché, parce que ça reste quand même des choses qui sont assez émouvantes. Et donc c'est un petit espoir pour ces familles qui sont dans ce genre de situation. Malheureusement ici, effectivement, il a fallu ce training avant qu'on soit trop tard. Peut-être qu'effectivement dans les prochaines années, on pourra espérer, grâce à certaines évolutions, que ce soit on puisse réussir à mapper des choses à partir du moment où ils sont déjà bloqués. Ouais. C'est l'évolution de la science qui me fait plaisir en me disant le soir, je me dis ok, je sais pourquoi il y a des gens qui bossent et pourquoi on passe du temps dans les bureaux parfois un peu plus d'heures que prévu. Il y a des choses qui je trouve ça, c'est pas juste pour du pognon, c'est pas juste pour le truc, c'est de la science pour aider les autres,
au service des gens d'une seule personne, mais peut-être d'autres dans l'avenir. En tout cas, c'est ce qu'on peut
ils ont fait ça avec deux personnes déjà, je pense.
D'accord, ok. Faut se souvenir aussi, on a tous cette image là des gens qui sont dans un handicap profond et qui peuvent communiquer même s'ils ne peuvent plus parler ou énoncer des mots, etc., de pouvoir communiquer en choisissant sur un écran des lettres avec soit une paille qui leur permet simplement par un simple petit flux d'air de sélectionner une lettre et lettre après lettre. Il y a des gens qui ont écrit des livres comme ça en dictant lettre par lettre les mots. Ici, il n'y a même plus la possibilité d'avoir cette fonction-là. C'est vraiment quelqu'un qui est totalement inerte, qui n'a plus le mouvement de quoi que ce soit, qui ne peut plus donc manipuler quelque objet que ce soit pour arriver à communiquer même de manière très difficile.
Oui, même les yeux, il ne sait plus bouger les yeux.
Oui,
plus.
C'est ça.
Il s'est regardé droit devant lui, il voit des choses, mais il ne sait plus, il n'y a plus aucun muscle qui fonctionne.
Parce que là aussi, on a vu des exemples comme ça, puisqu'on peut repérer l'endroit sur un écran qui est sur laquelle la pupille se pointe sur un écran. Même ça, c'est plus possible. Donc, on est vraiment dans le cas le plus extrême de chez extrême. Si ça peut encore donner quelques, alors après, il faut le vivre. Hein. C'est autre chose. Mais si ça permet déjà effectivement de communiquer avec son entourage et éventuellement pouvoir définir une douleur, par exemple, enfin une douleur peut-être pas, parce qu'il n'a plus beaucoup de sens, mais un mal-être ou quel qu'il soit, c'est déjà fantastique. Je sais pas ce qu'en pense David, qui est avec nous, de ce genre d'avancée technologique. C'est génial.
C'est en effet génial. Par contre, c'est un syndrome qui fait vraiment peur. J'avais vu un documentaire il y a un certain temps sur un homme qui était comme ça tombé dans un syndrome, mais lui de manière assez soudaine, et il en est sorti. Et en fait, sa famille, il était dans un état végétatif, il savait pas bouger les yeux, comme ici, et sa famille pensait qu'il était dans le coma, qu'il était mort, mais en fait, le jour où il est sorti tout d'un coup de ce syndrome, il a raconté son expérience, et en fait, il était conscient et prisonnier de son corps pendant, je sais plus, c'était plusieurs années. Ouais. Et il entendait, il comprenait, son cerveau fonctionnait parfaitement, il voulait crier, il voulait se débattre, mais plus rien ne fonctionnait. Ouais. Donc si ça permet à des gens dans ce cas-là de pouvoir communiquer,
c'est
la lumière au bout du tunnel.
Un peu ça, oui.
Ouais, si je peux, donc on est dans le premier sujet, il plombe l'ambiance.
Il est costaud.
Il est chaud, quoi. Ouais. Mais ça peut toucher, ce type d'évolution pourra toucher une population qui est bien plus large. que ceux qui effectivement sont bloqués dans ce genre de syndrome ou qui sont dans le coma. Mon père est décédé il y a un peu plus d'un an et c'est en fait il a eu un accident cérébral, donc effectivement une hémorragie. Et à partir du moment où on se retrouve dans ce genre de cas, en général les personnes ne savent plus communiquer parce qu'ils ont déjà 50 tubes dans tous les sens. Et souvent il y a une partie ici, il était hémiplégique, donc il savait plus parler et plus beaucoup bouger, et la seule chose qui réussissait à communiquer avec nous, mais c'était quasi impossible d'avoir quelque chose de compréhensible, c'était avec du morse, parce qu'il savait encore bouger la main. Et donc là effectivement tu vois la personne en face de toi, tu sais qu'il est conscient, tu sais qu'il sait te parler, qu'il pourrait te parler, mais il en a pas la capacité physique. Donc si à ce moment là tu peux donner à un patient la capacité de s'exprimer de manière intelligible, il y a des choix qu'il peut faire aussi. Parce que là, effectivement, on n'a pas réussi à avoir une discussion avec lui à ce moment-là. Il y a des choix qu'il peut faire en disant, OK, voilà, est-ce que tu as compris ta situation? Est-ce que tu veux vivre dans cet état? Parce que certains vont vivre pendant des années dans cet état. Ou est-ce que tu veux faire, parce qu'en Belgique, on a ce choix, ou est-ce que tu veux décider d'une fin de vie? Parce que là aussi, c'est une question de dignité vis-à-vis des êtres humains.
Bien sûr.
Est-ce que tu veux accepter et comme ça pendant quelques années, ou est-ce que ton choix, c'est que, je pense que ça peut apporter une partie de sérénité à les familles qui doivent prendre des choix.
Oui.
Et tu ne sais pas ce que le patient veut.
Pour en arriver à quelque chose comme tu l'expliques, hein, de réellement, de totalement efficace, il faut zapper la période d'apprentissage, en fait. Il faut arriver à faire
un truc. Oui, on n'y est pas encore.
On n'y est pas encore, et voilà, c'est encore expérimental, mais y a toujours cet apprentissage. Si demain, on vous branche, je dis n'importe quoi, mais deux électrodes ou n'importe quoi, ou un casque sur la tête, et que simplement par le fait de penser à une phrase, la phrase sort d'un écran ou d'un haut-parleur, que sais-je, là, ce sera une totale réussite. Mais tant qu'il y aura cette période d'apprentissage un peu compliquée et qu'il faut anticiper manifestement à assez long terme, tout de même, ça restera problématique. Mais voilà. Donc,
c'est le premier patient avec lequel on a une discussion alors qu'il n'est plus capable d'en avoir une.
C'est
donc
ça.
Donc voilà, on prend 5 ans, 10 ans, mais on peut avoir un espoir sur la médecine en disant, OK,
bien sûr,
d'ici 10 ans, on pourra peut-être sortir de ce vide une bonne partie des patients. Et donc voilà, c'est génial.
Si ce genre de sujet vous passionne, n'hésitez pas à le commenter, hein, vous qui écoutez cet épisode. Le reste va vous intéresser aussi.
mais ce sera moins lourd, quoi.
Voilà, c'est ça. On pourra peut-être un peu se dérider, mais c'est quand même un sujet grave et on peut se réjouir quand même qu'il y ait des avancées dans ce domaine tout de même. Du coup, on était à la lettre E comme Ethereum. On va peut-être pas non plus tout de suite se taper sur les cuisses, hein, mais c'est moins grave. c'est l'histoire d'un développeur, Virgil Griffith, qui a été condamné à 5 ans de prison pour avoir aidé la Corée du Nord à contourner des sanctions grâce aux crypto-monnaies. C'est un débat qu'on a déjà eu de multiples reprises, David, sur l'usage que l'on peut faire des crypto-monnaies. Est-ce que c'est une peine lourde? Est-ce que c'est mérité? Est-ce que tu vas tout nous dire?
Oui, donc Virgil Griffith, un ancien développeur de la crypto Ethereum, a été condamné à 100 000 dollars d'amende et 63 mois de prison pour avoir fait un discours lors d'une conférence en Corée du Nord. Expliquant comment les blockchains peuvent être utilisés pour le blanchiment d'argent, pour éviter, contourner les sanctions et pouvoir faire du trafic d'armes. Donc là-dessus, on lui est tombé dessus. Il était exposé à 20 ans de prison. Étant donné qu'il a plaidé coupable, le juge a baissé sa peine à 63 mois. Et il a été accusé de conspiration, de violation des sanctions internationales contre la Corée du Nord. Voilà. Mon avis, c'est que en tant que développeur de crypto-monnaie, être condamné à une peine telle pour simplement faire un discours, alors que c'est une information qui est disponible mondialement à tout le monde, je trouve ça un petit peu excessif.
Ouais.
Mais ils ont voulu en faire un exemple. Je veux dire, c'est comme d'autres personnes qui sont mises en prison parce qu'ils ont, un peu trop exprimé des pensées contraires à leur gouvernement.
Après, il faut voir la finalité de l'usage que l'on veut faire des crypto-monnaies et de à qui on s'adresse. Là, c'est la Corée du Nord, tout de même. Je sais pas ce qu'en pense Sébastien, mais enfin, je veux dire, c'est peut-être un très bon développeur, mais il est pas très malin en géopolitique.
C'est ça. Il savait qu'il prenait un risque quand même, tu vois. Si tu vas en Corée du Nord ou si tu vas aujourd'hui en Russie, parce qu'en Russie, ce serait pas super bien vu. Enfin, ça dépend de quel côté tu te places.
Oui, ça dépend ce que tu dis.
C'est vrai qu'il y a quelques pays aujourd'hui où tu sais que tu vas peut-être pas t'inscrire pour aller faire une conférence pour les aider à contourner les sanctions. C'est vrai que tu doutes que tout le monde va pas apprécier. Il était peut-être un très bon développeur, mais je suis pas sûr très bien compris.
Ouais, les tenants et les aboutissants et ce que cela peut entraîner aussi, parce que quand
c'est de la politique, quoi.
Oui, c'est de la politique, mais quand on parle d'acheter des armes, enfin de contourner et d'avoir la possibilité d'acheter des armes, etc. On a une part de responsabilité aussi. Et là, c'est quand même. Alors, de nous redevenir un peu sérieux, mais c'est quand même aussi la responsabilité du sang coulé, quoi, qui coule, quoi.
Mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de personnes dans les pays entre guillemets démocratiques qui pensent qu'il y a une certaine liberté d'expression et qui pensent que simplement en faisant un discours pour expliquer comment quelque chose peut être utilisé de manière malveillante, ils ne comprennent pas pourquoi ça pourrait les envoyer en prison, parce que c'est pas comme s'il avait vendu des armes, il a simplement discuté, fait un discours, il a pas fourni l'outil.
D'accord, donc il a juste dit, voilà, les crypto-monnaies, ça peut faire ça, mais il l'a pas fait. C'est ça l'idée, si je comprends bien.
Oui, c'est ça, mais c'est la version, c'est un état d'esprit très américain. Tu vois, les États-Unis, c'est la liberté d'expression, c'est nos limites. D'ailleurs, Elon Musk approuve. Ah oui, c'est ça, il approuve. Et donc, effectivement,
c'est pas cette news-là, en tout cas.
Non. Bon, tu sais, parfois, tu
sais. Oui, c'est possible, mais on va pas lui prêter des propos qui n'a pas de sens. Mais...
eux, c'est liberté d'expression au-dessus de tout. Tu vois qu'effectivement, sauf si ça embête vraiment fort les États-Unis d'un point de vue politique, ou si ça les met dans mauvaise posture d'un point de vue militaire. Mais en Europe, vous n'avez pas tout à fait la même mentalité. On se dit, OK, on a quand même des responsabilités, tu ne peux pas dire n'importe quoi.
Oui, enfin, ça dépend jusqu'où, dans quel détail tu vas. Enfin, ça dépend de nouveau à qui tu t'adresses. C'est une chose de le dire dans un documentaire ou un reportage qui passerait en radio ou en télévision chez nous, de dire voilà, il est possible avec les crypto-monnaies de contourner telle ou telle sanction économique ou d'acheter telle ou telle chose si vous voulez faire un coup d'état dans tel pays. On peut le dire, personne n'a jamais été en prison pour ça, si on explique mais si on va l'expliquer à des gens qui sont susceptibles d'utiliser ces informations pour effectivement faire ce que l'on expose, bon, ça peut énerver 2-3 personnes quand même. Donc, ceci dit, s'il n'a juste fait un exposé, c'est un peu cher payé quand même. Faut être honnête. Mais
pour info, il avait demandé au moment où il est parti, il avait demandé une autorisation aux États-Unis pour le voyage en disant je vais faire une conférence pour leur expliquer comment acheter des armes nucléaires, enfin comment négocier les armes. Ouais. Les États-Unis lui ont dit t'es gentil, va faire un BA, tu peux pas. Il l'a fait quand même. Donc tu vois, quand ton gouvernement te dit n'y va pas, tu sais que ça risque de poser quelques problèmes, hein, tu vois, on sait qui tu es. Et quand tu le fais, bon, après, t'as une responsabilité. C'est des longs débats.
Est-ce que le garçon que je ne connais pas, Virgil Griffiths, est-ce qu'il n'est pas un petit peu dans la provoque, quoi? Est-ce qu'il n'a pas voulu essayer de se faire une pub à bon compte qui lui coûte 5 ans de sa vie, ou peut-être moins, parce qu'il faut voir encore s'il fera les 5 ans, mais que c'était l'occasion de faire parler de lui dans un certain cercle. C'est la question qu'on peut se poser aussi, hein. Non.
je doute un peu, parce que les prisons aux États-Unis, c'est pas joyeux.
Non, d'accord, mais bon, il pensait peut-être pas aller jusqu'à cette extrémité-là, mais de contourner en disant ouais, je le fais quand même, machin, etc., et qu'il se fasse, il s'attendait peut-être juste à se faire taper un petit peu sur les doigts en disant non, tu peux pas, que ça fasse un petit article dans une presse et qu'il puisse en revendiquer en disant oh, vous avez vu ce que j'ai fait. Possible. Enfin, là, on extrapole, évidemment. Bref, bon, ben voilà. Si vous avez des nouvelles de Virgil, faites-le nous savoir.
Elle est tout aussi drôle, cette news.
Ouais, ouais, ouais. Allez. Votre abonnement Netflix va vous coûter plus cher. Poum.
Tiens, bim. Préparez les mouchoirs.
On va pouvoir regarder les séries à bon compte. Il y a plein de choses à dire sur Netflix pour l'instant, mais en particulier, effectivement, c'est ce plan tarifaire qui pourrait être plus abordable à condition, quand même, de vous mettre dans une situation qui vous... Enfin, vous réhabituer à avoir des écrans publicitaires. C'est un peu ça l'idée. Hein.
C'est ça l'idée. Et donc tous les journaux, c'est pour ça que je le mets, parce que je trouve pas la news finalement hyper important, mais tous les journaux titrent plus ou moins la même chose. Netflix va rajouter de la publicité. Alors évidemment, toi t'es en train de payer 10, 15 ou 20 euros par mois, tu dis, va me foutre de la pub dans ma série. En fait, non, c'est pas ce que veut faire Netflix. Effectivement, il continue à augmenter les tarifs. Ils l'ont fait il y a quelques mois, mais et ils perdent des utilisateurs, l'on débat.
Oui, c'est pour ça que je disais. Ouais.
Et en fait, ils vont introduire, enfin, ils réfléchissent à introduire un nouvel abonnement. Donc, on parle pas de rajouter de la pub sur vos abonnements actuels, mais on parle de prévoir un nouvel abonnement qui lui sera plus abordable, mais qui, en contrepartie, ajoutera de la publicité. La manière dont c'est présenté dans la plupart des médias, je trouve ça assez provoque et assez mal assez malhonnête vis-à-vis de Netflix.
Oui, c'est pour faire aussi une accroche un peu choc et un peu putaclic, quoi.
Comme il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent au titre. Ouais. Et on se dit, mais Netflix maintenant, en plus on va avoir de la pub, et donc non, vous n'allez pas avoir de la pub dans vos séries, dans vos films, etc. Sauf si vous décidez de prendre l'abonnement, le nouvel abonnement qui sera moins cher et qui permettrait de la publicité. Donc moi je trouve ça bien si ça peut permettre de donner à des gens qui n'ont pas envie de donner tout l'argent et qui acceptent de regarder de la publicité ou qui n'ont pas les moyens d'eux tous les mois, qui disent ok, effectivement. Donc c'est un modèle, il a fait ses preuves depuis des dizaines d'années dans la télé traditionnelle, c'est un modèle qui fonctionne, pourquoi pas.
Je tiens juste à signaler que Spotify ne se gêne pas pour mettre de la publicité sur des comptes payants existants. Hein. Enfin, donc il y a ce genre de certains opérateurs font ce genre de choses. Il ne faut pas dire non plus que tout le monde est innocent et oh là là. Non. C'est vrai que la presse y va un peu à la grosse masse pour taper sur le clou. Netflix, il n'y a vraiment pas besoin qu'on lui enfonce son clou parce que là pour l'instant, ils ont déclaré récemment qu'il y a 100 millions de ménages qui partage de manière non rémunérée quelque part des comptes d'accès, donc c'est un manque à gagner contre lequel Netflix voudrait bien se battre aussi. C'est un autre front quelque part d'essayer de récupérer un peu de pognon parce que il y a une baisse de fréquentation depuis la fin de la pandémie dans énormément de pays. Bah, les gens retournent bosser et ils restent pas calés devant la télévision, et donc il y a des gens qui ne justifient plus l'abonnement à ce service et qui donc résilient puis voilà. Et donc les gens qui partagent les comptes plus les gens qui, c'est quand même un peu compliqué pour Netflix pour l'instant parce qu'ils ont quand même des frais aussi, hein, il faut le reconnaître. C'est pas une plateforme qui fait des bénéfices plantureux non plus, hein.
C'est un truc qui coûte cher, hein. La diffusion de la vidéo ça coûte assez cher, hein. Je trouve assez J'ai pas mal de respect sur cette plateforme parce que c'est un des pionniers et c'est grâce à eux aujourd'hui qu'on a des Disney+, des Amazon Prime, des Hulu Max, HBO, etc. Ils ont ouvert le marché, donc et en plus non seulement ils ont ouvert le marché et après il y a une série d'autres acteurs qui sont arrivés et qui leur ont retiré les licences en disant je vais faire plus d'argent en le faire moi-même. Même si je regarde assez peu Netflix, d'une certaine manière, pendant les prochaines années, où je continuerai à payer un abonnement Netflix pendant quelques années, parce que c'est une compagnie qui fait en plus non seulement énormément d'innovation et qui partage. Et ça c'est important parce que vous, pour ceux qui nous regardez Vous voyez bien qu'effectivement il y a une belle barbe d'extrémistes. C'est des gars qui partagent énormément de trucs avec la communauté.
Parle de technologie, hein, pas de religion.
Et donc ils partagent énormément avec la communauté open source et ils partagent énormément avec les techs. Ces mecs ont permis d'énormes avancées. Donc ce que font pas les autres sociétés. Netflix est un bon exemple là-dessus. Donc soutenez Netflix. Je suis pas un grand fan de Netflix, jamais.
Ils sont pas totalement à la rue non plus. Il faut être très clair. Mais disons qu'ils sont plus tout seuls sur le marché et ils doivent. Cette période-là est révolue.
Et puis ils ont perdu les élections. Ils ont pas fait 5% et donc ils ont besoin de envoyer leur le chèque de 0 €.
Oui, c'est ça. C'est un peu ça l'idée, effectivement.
Moi perso, j'ai rien contre la pub du tout pour Netflix. Je veux dire. C'est un service payant et ils proposent un abonnement moins cher à condition d'avoir un petit peu de pub. Les gens sont libres. Quand on pense que quand on va au cinéma, on paye 10 € pour voir un film et qu'on a 20 minutes de publicité avant où on n'a pas le choix, je vois pas vraiment le problème. En plus, Netflix, la quantité de films qu'on a, quand c'était YouTube qui était gratuit avec de la publicité et qu'ils ont décidé de faire YouTube Premium payant pour ne plus avoir de publicité, personne n'a râlé. Ici, c'est un service payant qui propose tout d'un coup d'avoir un abonnement moins cher avec de la pub. Et là, on s'énerve. Je trouve pas ça très juste.
C'est un choix, effectivement, puisque tu parles des comptes premium YouTube. Pour votre petite information à tous, puisque nous avons une chaîne YouTube, les quelques centimes que rapporte, entre guillemets, la chaîne YouTube, on a une toute petite chaîne, hein, il faut le reconnaître, 10 000 abonnés, c'est pas grand chose par rapport à d'autres mastodontes. Les comptes premium, je pense, représentent à peu près 10 ou 12% des revenus, chez nous. Alors, peut-être que chez d'autres, c'est différent, mais voilà. Ça veut dire quand même qu'il y a des gens qui sont prêts à payer un peu plus, qu'ils ont de l'argent, hein, pour ne pas avoir de la publicité. Alors que on peut pas dire que chez les technos, il y a énormément de publicité. Il faut le dire aussi. Voilà, on a fait le tour de Netflix, c'est bon, passons à autre chose. Passons à autre chose comme, par exemple, la lettre M comme modèle 3D, David. Il y a des modèles 3D liés à Honda. Le motoriste, hein, Honda, qui doivent disparaître. Tu vas nous expliquer le pourquoi du comment du parce que.
Oui, donc voilà, Honda a décidé qu'il ne voyait pas d'un bon œil tous les modèles 3D qui étaient disponibles sur le site qui a été repris par Prusa, qui s'appelle Printables. Et Printables a reçu en fait un dossier d'avocat officiel de la part de Honda, un dossier assez énorme, leur demandant gentiment de bien vouloir retirer du site toute une série de modèles, et tous ces modèles 3D étaient non seulement des modèles qui représentaient le logo de Honda, mais tout ce qui pouvait être utilisé dans un véhicule Honda, comme par exemple des bouchons à réservoir de fluide, lave-glace, tous des modèles pour faire un peu de personnalisation de la voiture.
C'est ça, oui. Ça peut être aussi bien des choses utiles, des pièces de remplacement, hein, des bouchons, des choses comme ça, que des choses un peu plus graphiques, un peu plus
ou tout simplement, par exemple, un porte GSM qui est adapté pour un véhicule Honda. Tous les modèles 3D qui contenaient le mot Honda dans la description pour Honda ou qui avaient un logo ou quoi, il y a eu un takedown assez agressif. Et apparemment, les autres sites de modèles ont reçu le même genre de menaces de la part des avocats de Honda. Mais apparemment, à l'heure actuelle, sur Thingiverse et Tangs, la majorité de ces modèles sont toujours disponibles.
D'accord. C'est quand même très. Enfin, je trouve pas ça très. Enfin, je sais pas ce qu'on pense.
C'est un scandale.
Enfin, se battre contre les makers de cette manière-là, c'est un peu scandaleux parce que finalement, si les makers font ce genre d'accessoires ou d'objets, etc., c'est pas pour concurrencer Honda, c'est pas pour leur, parce que Honda est trop cher ou parce que voilà, on n'est pas dans cet esprit-là.
C'est parce qu'ils aiment la marque.
En plus, c'est des fans de la marque et c'est surtout parce que bah, le porte de GSM, Honda l'a pas fait eux-mêmes. C'est aussi ça. Enfin, je trouve pas ça très normal.
Et le bouchon du réservoir de la vitre, ben si on l'a perdu ou quoi, j'imagine on va au garage Honda, on leur demande un nouveau bouchon, ils vont dire ben, on ne sait pas vous aider.
Par exemple.
Il faut le commander au Japon. Ça coûte 300 € de frais de port et il y en a pour 2 ans pour l'avoir.
Mais je pense aux gens qui font de la rénovation auto, moto, diverses et variées, qui on trouve plus le petit sigle qui va sur le réservoir d'essence de la moto, où on trouve, et que ça c'est une possibilité d'arriver à avoir un modèle, de collection avec une esthétique, etc. Alors, c'est pas ma passion, hein, je le dis tout de suite, mais je peux comprendre qu'on ait envie d'aller jusqu'au bout de l'idée et à ce moment-là, on prend un bout de bois et on le taille avec son petit canif. Enfin, c'est complètement ridicule, quoi.
Ça va totalement à l'encontre des dernières réglementations européennes sur tout ce qui est réparation par rapport au GSM, tablette, etc.
Par exemple.
C'est vraiment quelque chose qui aujourd'hui est dans la tendance mondiale. On est un peu écolo, on veut faire garder les trucs un peu plus longtemps, allonger leur vie, etc. Et là non. Donc, mauvais coup de cœur.
C'est pas sympathique du tout. Et ouais. Si je dois acheter une voiture, je penserai certainement pas à Honda.
Si je dois en rénover une. Ce qui n'est pas mon cas, une voiture ou une moto, parce qu'on a fait aussi des motos.
Tiens, ça concerne voiture ou tout Honda, parce qu'ils font plein de trucs.
Honda, c'est beaucoup. C'est
tout Honda.
C'est ça, c'est tout
Honda. Parce que t'as aussi,
mais apparemment, ça parlait principalement de modèles voiture. Je n'ai pas lu.
T'as plein de trucs.
Mais ils ont dit,
c'est
tout ce qui est lié à la marque.
Il y a un petit sigle quand même qui est plus un sigle, me semble-t-il, lié au modèle de moto, d'après ce que j'ai pu voir sur les visuels. Mais ça peut même être, ça peut même des modèles réduits de moteur. C'est pas fonctionnel, quoi. C'est juste pour faire un objet parce qu'on aime bien la marque. Enfin voilà, je comprends pas ce genre de réaction un peu à l'emporte-pièce. L'expression est bien choisie. Je trouve ça c'est dommage, une fois de plus. Si vous avez une opinion, n'hésitez pas à la partager avec nous. On se fera une joie d'en faire l'écho. Peut-être qu'on a tout faux, peut-être qu'effectivement, il faut être très très à cheval là-dessus et pas laisser faire n'importe quoi, c'est vous qui voyez. Nous, on vous a livré l'info, comme on le fait chaque fois avec toutes les infos. Vous avez les liens, d'ailleurs, dans la description de cet épisode, qu'il soit sur une plateforme de podcast ou sur notre site lestechno.be ou même sur YouTube. La lettre P comme prume, on va dire prume, P-R-U-M, Sébastien, c'est même prume 2 si je dis pas de bêtises.
C'est ça, prume.
C'est prume en fait. Mais c'est quoi prume? Qu'est-ce que prume?
Prume.
Prume, oui. Qu'est-ce que prume?
Alors c'est un truc où, de nouveau, j'aimerais que parfois qu'on lise la news jusqu'au bout, et c'est ça qu'ici, je vais prendre le temps de vous expliquer le truc jusqu'au bout, mais ça va aller vite, vous inquiétez pas. Donc c'est le principe, c'est l'Europe met en place un système international de reconnaissance faciale. Donc en fait, l'Europe est en train de mettre un système pour que les polices puissent s'interconnecter et faire de la reconnaissance sur nos petits visages pour dire « Hey !» C'est Marc.
Alors, comme à la chinoise,
À la chinoise. Alors là, effectivement, t'as tout de suite, quand tu lis juste ce titre, et apparemment, certains... certaines ONG n'ont lu que le titre, et tout de suite, ont commencé à réagir, à sortir des trucs. Bon, on va faire un état policier, ça va être pire que... c'est le truc le plus monstrueux, le pire état policier du monde, pire que la Chine, machin. Et les mecs se font dégommer. Et donc, effectivement, hein, on en a déjà pas mal parlé par le passé de d'abus de ce genre de système, c'est-à-dire d'utiliser la reconnaissance faciale par les forces de l'ordre quand effectivement font des arrestations. Il y a eu beaucoup d'erreurs, enfin beaucoup de dérives aux États-Unis en disant le système te dit que c'est lui, que c'est un vilain méchant, il faut aller l'arrêter, et la police ne veut même pas poser la question, ils vont l'arrêter, ils lui mettent 2-3 pains, parfois une balle, et voilà aux États-Unis. Et là, le système était défaillant. C'est pas du tout le principe de ce que veulent faire ici les 7 pays européens qui étaient à la base de Proum 1, et puis maintenant qu'on élargit à Proum 2 avec les 27. Alors les 7 premiers, je vais faire cocorico, parce que si vous nous écoutez, votre pays en faisait partie, hein, parce qu'il y a la Belgique, l'Allemagne, l'Espagne, la France, le Luxembourg, les Pays-Bas et l'Autriche. Donc a priori, on a cité quasi tous les francophones, y compris, enfin pas sauf la Suisse, mais la Suisse ne fait pas tout à fait partie de l'Europe. C'est pas la même chose. Et en fait, donc un gars de la PJ devait faire une reconnaissance faciale, il dit « Ah, c'est un Français, on est en Belgique, alors tu connais le numéro de Jean en France ?»« Non, attends, hop, il appelle Jean, il dit « Jean, j'ai une photo, tu veux pas regarder ?» Et alors Jean dit « Oui, peut-être. » Et donc 2 mois plus tard, le mec, parce que voilà, c'est ça la coopération, peut-être qu'il a regardé la photo et qu'il renvoie les hits. Donc c'est pas évident, il devait demander à chaque fois à leurs collègues qu'est-ce qu'il en est dans les autres systèmes. Alors qu'ici, on propose de les interconnecter pour que tout le monde puisse effectivement avoir cette information, mais il n'y aura pas un système qui permet à toutes les polices d'avoir accès toutes les photos d'un coup. C'est un truc que chaque pays reste avec sa base de données, mais il y a des interconnexions qui sont ici prévues pour que les systèmes puissent parler entre eux. Et le système n'est pas prévu pour, en tout cas ce n'est pas le cadre législatif, il n'est pas prévu pour faire de la reconnaissance faciale en temps réel en rue, en disant « Hey, c'est Marc, on l'a reconnu, on va le suivre ». Non, c'est pour pouvoir a posteriori, après un crime, et c'est ça la grande subtilité de système qui est mis en place, c'est a posteriori, il s'est passé quelque chose, donc c'est des reconnaissances à froid, comme on dit. Ouais. On prend la photo, on se dit, c'était qui ce gars qui a déconné là-bas? Et alors, effectivement, là, on va pouvoir dire, en fait, c'est lui, et à ce moment-là, on peut commencer un travail d'enquête pour vérifier si c'est bien lui, si c'est etc etc. Et donc aujourd'hui, on a ouvert toutes les frontières en Europe. Je pense que ça me semble assez normal aussi que les forces de l'ordre coopèrent de ce côté-là. Moi personnellement, ça me choque absolument pas, tant qu'il y a un travail effectivement policier qui est fait derrière, pour pouvoir valider que c'est les bonnes personnes, qu'il était là, etc.
Et que cela ça se fasse dans un cadre légal, quoi, juridiquement contrôlé, avec des et c'est tout à fait autre chose que un simple gardien entre guillemets, un simple gardien de la paix qui puisse avoir accès à des données personnelles du monsieur qui passe devant lui. Ça n'a rien à voir, c'est pas du tout
le système, donc il se fait démonter, et je pense que les gens devraient vraiment lire jusqu'au bout le truc.
Le jour où on retrouvera comme ça la personne qui a volé leur voiture, et encore ça c'est un petit délit, il pourrait y avoir des trucs plus graves grâce à ce genre de système, c'est peut-être qu'ils y réfléchiront différemment. Ceci étant dit, là pour prendre le contre-pied quelque part de ce qu'on vient de dire, c'est toujours bien aussi d'avoir des gens qui s'inquiètent de savoir ce qu'on va faire et comment ça fonctionne. C'est important aussi. Il faudrait surtout pas que tout d'un coup on dise c'est la police qui le fait, t'inquiète. Non, il faut pas laisser donner de blanc-seing à personne. Il faut rester vigilant, il faut contrôler ce genre de trucs, mais de tirer des conclusions sans avoir analysé, ça par contre c'est dommageable pour tout le monde. Donc voilà, je sais pas ce qu'en pense David, rapidement, parce qu'on est un petit peu à la bourre sur notre petit planning.
Oui, rapidement, je suis d'accord.
Merci David. ça c'est rapide, c'est bien, merci. Voilà. Le doigt sur le bouton, il fallait pas me le dire deux fois. T'es comme télévision, on va parler de télévision, mais télévision dans certaines circonstances. On avait parlé de voiture autonome il n'y a pas tellement longtemps et de ce qu'on pouvait éventuellement faire pendant que la voiture avance. Et vous vous doutez bien que Sébastien, il a plein d'idées sur ce qu'on peut faire dans une voiture autonome.
Bien sûr.
Tu n'as pas le volant, quoi.
Oui, j'en profite pour annoncer qu'on fait un deuxième podcast le soir. Et donc, ça s'appelle Les Techno 18+, où on vous explique tout ça. Vous pouvez toujours chercher. C'est un petit peu plus confidentiel, chercher. Mais voilà, il y a plein de trucs sur les voitures autonomes. On devrait faire des tests. Franchement, ça nous donne plein d'idées. On va se lancer. On va faire ça sur tout l'été. On va vous faire un de ces programmes.
Rien n'est vrai.
Sur une autre plateforme.
C'est un message que Sébastien essaie de me faire passer un message.
voiture autonome, qui dit voiture autonome dit effectivement la voiture elle roule toute seule. Jusque là vous avez compris, hein, vous êtes quand même intelligent si vous nous regardez. Salut. Et donc pendant qu'elle roule toute seule, honnêtement, a priori on s'emmerde, hein, soyons clairs, déjà la route c'est pas le fun. Alors si en plus la voiture elle roule toute seule, qu'est-ce que tu veux, donc tu t'emmerdes. Et aujourd'hui le système d'infotainment, quand la voiture elle roule, écran noir. C'est le principe. Hein, pas question que le conducteur il regarde la télé. Ou GSM ou quoi que ce soit. Nos amis anglais se sont dit, en fait, quand la voiture elle roule toute seule, peut-être que la télé on peut, non? Et les gars disent, la télé c'est quand même important. Oui, quand même. Et donc maintenant, dans l'infotainment, la télé va être autorisée, y compris pour le conducteur. Y compris donc pour le gars qui est assis au siège conducteur.
Dans le tableau de bord, quoi.
Ouais. Dans le tableau de bord, pendant que la voiture est en mouvement, à condition qu'il puisse reprendre le volant. Donc il doit toujours être disponible pour reprendre le volant, si la voiture lui dit. Et la voiture doit pouvoir, en cas de problème, détecter qu'il y a un problème, et à ce moment-là, lui couper la télé en disant « Page de pub, tu vas reprendre le volant et la suite de votre émission dans 5 minutes ». Donc le système doit être un tout petit peu intelligent, mais dans ce cas-là, la télé sera autorisée dans la voiture pour effectivement
pour ne rien perdre. Pour ne rien perdre de sa série ou quoi que ce soit, je trouve que dès le moment où on reprend la main sur le volant et qu'on conduit, du coup, et que le système autonome est donc débrayé et que la télé s'arrête, je trouve qu'il serait quand même judicieux d'enregistrer le programme pour reprendre là où on l'a laissé. Tu vois, pas parce qu'on va, sinon il y a des gens qui vont hésiter à reprendre le volant parce qu'on est justement à un moment crucial où la petite dame va se faire tuer ou pas. Et vous un accident parce que je voulais avoir la fin de cet épisode de Top Model. Tu vois, faut faire attention à ce genre de détails aussi. Le bouton conduite autonome, c'est pas le bouton pour allumer la télé. Faut pas mélanger les genres, quoi.
Petite subtilité quand même dans le truc, c'est que les smartphones sont toujours interdits. Parce que le smartphone, lui, ne peut pas savoir que la voiture besoin que tu conduises, a besoin que tu reprennes le volant, et donc comme lui n'aura pas cette capacité, ou en tout cas il estime que ce sera pas possible, donc le smartphone reste interdit.
D'accord, ok.
C'est logique, à la place, tu te dis, c'est cool, mais oui, mais en fait, c'est logique.
Et pour les gens qui s'endorment devant leur TV, ils s'endorment devant la TV, la voiture leur dit, reprends le contrôle, ils coupent la TV, mais ils sont en train de ronfler.
Oui, ça peut être, s'ils ont le sommeil lourd, en plus, ça peut être dangereux, effectivement. Ouais. Non, moi je trouve que c'était le moment idéal et l'endroit idéal pour relancer quelque part, vu le principe, hein, qui est simplement la lecture, tu vois, proposer aux gens de lire des livres.
Des trucs, il y a de top systèmes où tu peux le Audible, où t'es pas obligé de le lire. Et Amazon te propose quasi tous les bouquins et pas que.
Des podcasts, d'excellents podcasts. Vous pouvez nous trouver sur Audible, d'ailleurs, les technos y sont. Je vais de temps en temps regarder parce que pour m'assurer qu'il y a toujours marqué 0€ à côté de nos épisodes. Oui. Des fois qu'ils essayent de se faire du pognon sur notre dos. Mais je pense qu'ils le feront pas. On n'a pas assez d'audience pour ça.
L'autre podcast qu'on fait, les 18+, là, oui.
ça c'est autre chose. Oui, mais ça, on est obligé parce que comme ce sera 18+, on perd quand même une proportion non négligeable d'audience qui pourtant serait intéressée, mais n'a pas le permis de conduire. Donc, j'espère que vous nous suivez. ça devient un petit peu complexe. Voilà, c'est juste en Grande-Bretagne et c'est pas fait. Il faut être clair.
Mais la loi c'est fait.
Mais je veux dire, il y a pas de voiture autonome avec des télévisions. Enfin, les voitures sont pas équipées dans ce sens-là. Donc voilà.
C'est là que c'est le plus drôle. Moi, j'adore les amis anglais. C'est que cette loi elle est prévue. Par contre, il y a encore aucune loi en Angleterre qui autorise les voitures autonomes.
Donc cette news,
donc le mec il est déjà dire je veux la télé, oh, mais la voiture attends on va voir ça après.
La télé est autorisée mais pas la voiture. Et ça complique un peu le jeu effectivement. Donc et en plus c'est ça en Grande-Bretagne tous les ronds-points qu'il y a. C'est compliqué pour les voitures autonomes.
Et en plus dans le sens inverse.
Enfin ça c'est
pour vous. Pour vous pas pour moi.
C'est une donnée pour le pilotage automatique. Oui. C'est pas voilà, mais bon. Ok, passons à autre chose. La suite du feuilleton Elon Musk Twitter. David, tu voulais nous en remettre une petite louche parce que effectivement, depuis l'épisode précédent, et on l'avait d'ailleurs précisé dans l'épisode, précisé l'heure parce que tout peut aller toujours très vite avec Elon Musk. On avait dit voilà l'état actuel des choses et quelque part t'as pris la décision de faire le point et ça ne vaut de nouveau que pour l'instant on en parle, mon bon David, puisque je le rappelle, nous enregistrons le jeudi soir, nous sommes le 21 avril. Il est, quelle heure il est, 21h25, voilà, tout à fait précis. Si ça se trouve, tout peut changer à 22h. Donc, il ne faut pas nous en tirer rigueur. David,
ça, c'est clair. Donc, pour rappel, Elon Musk avait racheté 9% d'actions de Twitter en voulant prendre une place dans le conseil d'administration. Il y a eu un rebondissement où Twitter a une pilule empoisonnée où ça leur permet de pouvoir ressortir des actions et augmenter le prix de rachat de nouvelles actions au cas où il arriverait à 15%. Mmh. Et Elon Musk avait annoncé qu'il était prêt à racheter Twitter au complet, qu'il avait envoyé une offre. Et là, à la nouvelle du jour d'aujourd'hui, 21 avril, c'est que Elon Musk a proposé son plan de rachat et de financement, où en fait, il va débourser 21 milliards en équité personnelle, à lui seul, et 25 milliards en prêts à diverses banques. La Twitter a en effet confirmé qu'ils ont bien reçu une offre de rachat d'Elon Musk et qu'ils allaient analyser le dossier de manière approfondie. Donc ils ne disent plus qu'ils sont complètement contre. Ouais. Et il y a quelques jours encore, on disait ouais bon c'est encore Elon qui veut faire parler de lui, etc. Mais bon voilà, maintenant il faut savoir que sa fortune personnelle est montée à plus de 240 milliards de dollars.
Ah oui, quand même.
Ça a triplé en un an. Ouais. Donc pour lui, bon. 240 ouais. milliards de dollars, il met 21 milliards personnels, c'est même pas 10% de ce qu'il a. Je veux dire, c'est un petit caprice de riche, quoi.
Je trouve qu'on vit une époque quand même formidable et quelque part inquiétante aussi. On balance des chiffres, on parle de milliards de dollars. Je pense qu'avec les 46 milliards de dollars, avec la moitié de cette somme, on peut arrêter une guerre avec une somme pareille, si vous voyez ce que je veux dire. C'est énorme. Enfin, c'est énorme. Oui,
arrêter la faim dans le monde.
Oui, par exemple, c'était une question qui s'était posée à un moment donné. Quelqu'un avait dit X milliards. Et on n'a jamais eu la réponse en bout de course, parce que les gens qui avaient lancé cette idée-là n'ont pas été jusqu'au bout de l'idée. Il avait provoqué en lui-même, en disant prouvez-moi qu'avec autant de milliards, on peut arrêter et je vous les donne. Et personne n'est revenu derrière avec un bilan comptant en disant ben voilà, on va faire ça comme ça, on va acheter ça. Et voilà, parce que c'est peut-être les solutions sont peut-être pas aussi simples qu'on l'imagine, mais malgré tout, on est quand même devant des sommes qui défient le bon sens, quoi.
Oui, c'est...
Sébastien.
C'est astronomique.
Oui, et quand tu parles de fin dans le monde, ça me fait penser, je sais, est-ce que vous savez combien de gosses a Elon Musk? C'est, je trouve ça assez exceptionnel.
Quel rapport avec la fin dans le monde?
Eh ben oui, ont... parce que lui, parce que fin, à chaque fois, on lit toujours le fait qu'il y a beaucoup de personnes, et donc il faut pouvoir nourrir tout le monde, blablabla. Bla, bla. Et lui estime, dans certaines interviews, on peut retrouver ces passages, c'est que lui estime qu'on est trop peu sur la Terre, qu'on est en déclin et qu'il faut faire beaucoup d'enfants. Donc lui, on a déjà... Il trouve, oui. Et donc lui, il en a déjà fait 7.
D'accord, ok. Bon,
avec 5 ou 6 femmes différentes. Hein.
Je me demande où il trouve ces chiffres démographiques. Par contre, c'est un peu particulier quand même. C'est, voilà. Ok, ce monsieur continue à nous étonner. Hein. On peut le trouver génial sous certains angles et aussi pas génial sous certains autres. Faut être honnête. C'est vraiment une personnalité controversée du moment. Hein. Il faut le dire. Oui, pas tous les deux.
Tu sais à qui me fait penser quand tu sur certaines photos, dans le visage, il commence
mon garagiste.
Garagiste.
Oui,
je comprends. Non, un gars beaucoup plus connu qui est décédé il y a pas tellement longtemps, Grishka. D'une certaine manière, dans certaines formes de visage, il est en train de se transformer en un Bogdanov.
Serait-il atteint de la même maladie
Oui, parce que son visage change et tu vois vraiment au niveau des os, tu dis, j'ai l'impression qu'on dirait Igor ou
quelque chose. Je sais pas, j'ai pas vu ça.
Ouais. Il prend peut-être des hormones de croissance. Hein.
Peut-être.
On relance le débat.
Peut-être, ou pas. David, pour conclure.
Oui, ce que je trouvais exceptionnel ici, c'est que Twitter a banni un président des États-Unis. Et ici, Twitter a eu un peu, a fait des choses qui n'ont pas plu à Elon Musk et lui dit, moi j'ai du pognon, moi je suis plus riche du monde, je vais vous racheter.
Oui, enfin, c'est soit.
Là, je veux dire, donc quand on arrive à ce genre de choses, il pourrait dire. Je rachète un pays, je rachète un gouvernement, un pays qui est en situation financière difficile, je vous prête de l'argent, mais vous me faites président.
Oui, on n'est pas loin de ça, effectivement, et je pense qu'un jour, on y arrivera. Mais bon, on va rentrer dans ce genre de débat. On a fait le tour de Twitter, cet épisode du feuilleton, parce qu'à mon avis, il y en aura d'autres derrière, ça, c'est sûr. Et nous voilà arrivés à la lettre W comme Windows.
C'est décevant ton truc.
Bah oui, je sais, je suis désolé, mais cet épisode est décevant.
Déjà, ça commençait super mal. C'est triste, on avait la larme à l'œil.
C'était triste. C'était voilà.
Et puis Windows.
On termine avec. Ouais, je suis désolé. Windows. Alors sous Windows, il existe un outil pour activer le Google Play Store. Je l'ignorais. Apparemment, je faisais bien de l'ignorer parce que c'est un malware, David.
Voilà, donc Windows 11 qui avait annoncé qu'ils allaient apporter sur les PC le support des applications Android a fait beaucoup parler de lui parce qu'en fait ça c'était pas via le Google Play Store, c'était via le Amazon Store. Mm-hmm. Et c'est pas très pratique parce que les gens sont habitués pour leur application Android de les télécharger sur Google Play Store. Et un outil Windows Toolbox qui permettait d'installer le Google Play Store sur PC était en fait un malware qui derrière infectait les ordinateurs avec des scripts et logiciels malveillants, cheval de Troie, des exécutions de scripts PowerShell, et tout ça de manière... qui passait à travers tous les antivirus. Voilà. Je suis un peu déçu sur Microsoft parce que il devait bien se dire que faire la publicité de la compatibilité avec les applications Android sans travailler avec Google pour fournir Google Play Store sur Windows, ça allait amener à ce genre de choses. Ça me semble tout à fait inévitable. Et ce qui était inévitable n'a pas été évité.
Eh oui.
Par contre, bon, c'est C'est une petite nouvelle, mais d'un autre côté, étant donné qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont peut-être pas derrière les nouvelles récentes, on voit un outil qui s'appelle Windows Toolbox, qui était réputé. Les gens ne s'en rendent pas compte qu'en fait
ils installent.
Voilà.
Et typiquement, ce genre d'application s'adresse quand même à un public assez large. Je trouve, c'est pas un public de dev ou de... ça ratisse large, quoi. Et donc, du coup, la cible est magnifique. Parce que là, une install, en plus, allez-y, et je donne les droits, youpi, et à tout ce qui est... toutes les occurrences, etc., partent dans tous les sens, et c'est... Là, c'est la fin du monde, quoi. Sébastien, je t'ai entendu émettre un son.
C'est une machine qui a fait tululu. Moi, j'ai dit sinon. Elon Musk, il s'en fout en fait de Windows.
Il va racheter.
Il va racheter, ouais.
Si ça valait quelque chose, si ça valait quelque chose, il l'aurait déjà racheté. Non, c'est ça l'idée. Mais qu'est-ce que t'en penses de cette histoire de Play Store, de Google Play Store, enfin de malware?
Bon, c'est pas la version Microsoft. C'est après, ouais. T'installes un truc à côté. Ouais, bon, bah effectivement.
C'est moisi.
Ça fait quelques années que je n'installe quasi plus rien qui vient du web sur ma machine, mais c'est des machines de dev. J'ai l'impression de devenir un vieux crabe boucri qui n'installe que des trucs pour programmer, mais du coup, je me sens bien en sécurité.
Tout vient du web.
Il fait plus, de toute façon, il se sert plus des ordinateurs. Sébastien, il développe.
J'écris du texte du matin au soir. Oui. Donc, tu vois, tu me files une machine à écrire, je suis content. Moi.
Dans des blocs-notes.
c'est presque ça.
Oui, c'est ça. C'est un peu indexé, arrangé, mais c'est ça, en fait. Hein.
C'est ça. Donc, ça me touche presque plus.
Oui. C'est triste, quelque part.
C'est triste, c'est ça. Oui, c'est vraiment, c'est pas aussi triste que le premier sujet, mais c'est triste. Bon, pleurez avec nous.
Oui, ben, c'est ça. Une conclusion, David, sur ce sujet, en tout cas. Ou pas.
Non.
C'est ça.
On s'en fout.
Non, finalement, on est d'accord, c'est bon. Ok.
Non,
tant pis. Faut décider plus vite.
Pas assez rapide. Tant pis.
Ça c'est pour pas être assez rapide, t'es pas assez rapide, ça c'est clair. C'est la fin de cet épisode 350. Évidemment, on n'a pas tout dit, il y a encore des choses à dire. Il y aura donc du coup un bonus à venir. Il est peut-être même déjà là, parce que je n'ai aucune idée de l'heure et du jour pendant lequel vous écoutez nos épisodes. Donc si ça se trouve, le bonus est déjà disponible et vous allez pouvoir vous faire une tournée supplémentaire de 15 minutes. C'est la durée d'un bonus chez les technos. Vous le savez. Merci beaucoup Sébastien, merci David, merci tous les deux. Passez donc une très très bonne semaine et on se dit à très bientôt, évidemment, pour un nouvel épisode des Technos.